c'est le moment de briller.
Quand vas-tu enfin comprendre que plus tu prends, moins tu as?
Tout commence par un évier qui brille.
C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale.
Une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres.
Give and be given.
C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine.
Toute cette année, ensemble, nous avons désencombré. Et l'exploration du désencombrement m'a conduite à des découvertes surprenantes, qu'elles soient matérielles ou philosophiques. En effet, après avoir allégé ma vie de l'inutile, je me suis retrouvée face à des questions essentielles. Parmi ces questions, une est ressortie chez moi avec force. Mon féminisme. Pour nous guider dans cette exploration, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau une auteure, professeure de yoga et de philosophie, Jeanne Burgard-Goutal. Bonjour Jeanne.
Bonjour Alexandra.
J'avais vraiment envie de parler de charge mentale. Pour moi, c'est en réalité parler de travail domestique invisible. Et je considère que la charge mentale n'est pas un problème de femmes mal organisées ou perfectionnistes. Et pourtant, dans cette émission, je donne des conseils pour s'organiser et je chasse le monstre du perfectionnisme. Jeanne, que pensez-vous de cette charge mentale domestique que vous ne subissez pas pour le moment dans cette partie de votre vie, mais qui peut avoir un impact sur les femmes dans leur vie quotidienne?
Je ne sais pas, c'est plus ou moins lié à des choix volontaires et aussi à plein de hasards de la vie. Mais voilà, je n'ai pas un mode de vie de femme au foyer, je ne vis pas en famille. Et donc, peut-être que j'ai trouvé des manières d'esquiver cette charge domestique qui aurait pu facilement me tomber dessus en tant que femme. Ou en tout cas, de rejouer ça autrement et de trouver comment on fait maison, parce que je ne vis pas non plus toute seule. Mais voilà, comment on fait maison ensemble sans tomber dans le schéma classique de la famille nucléaire avec les tâches domestiques qui incombent aux femmes. Et ça, c'était une idée, par exemple, qu'on trouve chez Françoise Daubonne, donc, qui a créé le néologisme écoféminisme. Elle avait souvent des slogans un petit peu choc, et un de ses slogans, c'était « énergie nucléaire, famille nucléaire, même combat ». Donc avec l'idée que donc, ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est le modèle familial qui est le modèle de l'Occident moderne, qui parfois nous paraît aller de soi, nous paraît naturel, donc de vivre avec les parents et leurs enfants, mais qui en fait est une construction historique qui s'est faite de façon tout à fait inégalitaire. Et on voit effectivement que souvent ça se fait sur le dos des femmes, cette structuration-là de la vie collective. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé des manières de structurer ma vie, ma maisonnée complètement autrement. Mais cette manière habituelle de vivre en famille, il y a des historiennes écoféministes par exemple, comme féministes ou écoféministes, comme Silvia Federici, qui ont étudié la façon dont ça s'est construit historiquement et qui montrent que justement cette charge domestique et ce travail domestique assigné aux femmes, c'est pas du tout quelque chose qui serait naturel, qui remonterait à la préhistoire, qui serait une répartition des rôles ancestrales, mais c'est une construction qui s'est vraiment cristallisée et consolidée au XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la transition au capitalisme. Et elle montre comment, jusque-là, d'après ses études, c'est controversé, hein, mais bon, elles se fondent aussi sur des archives sérieuses, il y avait des répartitions des rôles à la fois dans la vie, dans le travail productif et travail reproductif, donc dans le travail professionnel, agricole, artisanal et dans les tâches de la maison, une répartition qui était beaucoup plus fluide entre hommes et femmes, et que l'essor du capitalisme a nécessité qu'on enferme les femmes dans la sphère domestique. Donc il y a des lois au XVIIe siècle qui interdisent plein de professions aux femmes, qui les assignent à un rôle de reproductrice, de mère, de femme au foyer. Et les hommes, eux, sont plutôt arrachés à la sphère domestique pour travailler dans les premières fabriques, manufactures, usines, etc. Donc en fait, ce dont on hérite aujourd'hui et dont on essaie de se débarrasser, c'est compliqué parce que ça fait plusieurs siècles que ça s'est figé. Mais en même temps, on s'aperçoit que ce n'est pas quelque chose d'éternel et naturel, mais une construction sociale qui du coup, puisqu'elle s'est créée à un moment, peut se déconstruire à un autre moment, et peut-être que c'est le moment.
The rest is still unwritten. Le reste n'est pas encore écrit. Vous venez d'entendre un morceau inspirant qui encourage à vivre pleinement et à s'aimer. Une chanson de Natasha Bedingfield qui s'appelle Unwritten et se traduit par non écrit. La féministe Bell Hooks avance également une idée forte et très pertinente. Les hommes ne s'occupant pas assez des enfants, parents ou non, donnent aux enfants l'impression que l'éducation doit être une préoccupation uniquement féminine. Et le même schéma se reproduit encore et encore.
Oui. Bah, c'est vrai que les constructions sociales, elles se transmettent de génération en génération. Et ce qui est pernicieux, c'est qu'elles se transmettent beaucoup plus à travers les exemples que les enfants voient qu'à travers les discours qu'on leur tient. C'est évidemment impossible à quantifier, mais bon, j'avais lu que 90% de ce que les enfants vont choper de leurs parents, c'est pas ce qu'on leur dit. Donc ce qu'on essaie de leur transmettre consciemment, c'est comme si, c'est pas comme ça, etc. Mais que c'est par imprégnation et par mimétisme. Et donc par exemple, je sais pas, des parents qui ne lisent pas, ça sert à rien qu'ils disent à leurs enfants « il faut lire, ah là là, mon enfant ne lit pas », etc. En fait, si l'enfant n'a pas vu ses parents en train de lire, pris dans le plaisir de la lecture, ils vont juste imiter. Et du coup, c'est ça aussi qui est complexe, c'est que ça suppose probablement même tout un travail sur soi, voire un travail psychanalytique, pour analyser quel schéma inconscient on a soi-même capté de nos parents et on risque de transmettre malgré nos tentatives conscientes pour faire autrement.
Donc messieurs, si vous avez envie que ça change, montrez à vos enfants que vous savez balayer, que vous savez plier le linge, que vous savez lancer une machine à laver ou un lave-vaisselle. Et malgré tout, Bell Hooks dit aussi, les hommes sont conditionnés à fuir la responsabilité de l'éducation des enfants et cette fuite est conditionnée par les femmes qui pensent que la maternité est une sphère de pouvoir dans laquelle elles perdraient du terrain si les hommes partageaient équitablement les tâches parentales.
Ouais, c'est super intéressant comme idée et c'est un peu terrain glissant. Donc là, c'est sous la plume de Bell Hooks qui est une féministe. Donc on voit qu'elle, dire ça, c'est pas du tout un positionnement masculiniste ou patriarcale de sa part. Et je pense que c'est important de le souligner parce que ce qu'elle dit, ça pourrait ressembler à des discours qu'on entend de la part de sphères masculinistes, de dire que finalement, voilà, tout est la faute des femmes, que c'est elles qui séparent les pères des enfants, qui les empêchent de s'investir dans l'éducation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, du coup, elle souligne quand même à quel point c'est ambigu et je pense que ce qui est important dans la citation, c'est la question du pouvoir, de voir la maternité comme un rapport de pouvoir. Parce que Bell Hooks, ce qu'elle cherche à traquer partout, donc c'est une afro-féministe, elle s'intéresse à la façon dont les rapports de pouvoir vont s'insinuer dans tous les rapports sociaux, donc à la fois entre hommes et femmes, mais voilà, c'est aussi une grande penseuse antiraciste, une grande penseuse anti-classiste et hiérarchie sociale, anticapitaliste, etc. Donc ce qu'elle cherche à faire, c'est de voir là où la question du pouvoir se joue pour déconstruire le pouvoir à ces endroits-là. Et de fait, on observe que dans une société patriarcale, parfois la maternité, c'est le seul lieu de pouvoir pour une femme. Par exemple, quelque chose qui, moi, m'avait vraiment frappée en Inde, que j'avais vraiment compris sur place, souvent, on me parlait du rapport entre les belles-mères et leurs belles-filles, donc la fille de leur mari, comme étant des rapports super violents où la belle-mère cherchait vraiment à faire de sa belle-fille son esclave. Puisque une femme, en Inde, traditionnellement, quand elle se marie, elle va vivre dans la famille de son mari. Et donc là, il y a la mère de son mari qui se met à l'exploiter complètement, à lui faire faire tout, souvent être méchante avec elle. Et en fait, c'est compréhensible puisque finalement, les femmes, il n'y a aucun domaine social où elles peuvent exercer un pouvoir. Professionnellement, ben non, parce qu'elles ne travaillent pas vraiment, elles n'ont pas non plus de enfin en tout cas de façon salariée, je veux dire, elles n'ont pas non plus de rôle politique, elles ne peuvent pas voilà, faire une carrière, avoir des responsabilités dans une entreprise ou dans un État ou une municipalité. Et donc le seul endroit où ce besoin de pouvoir ou de puissance peut s'exercer, c'est dans ce rapport-là. Donc dans la maternité ou la belle maternité en l'occurrence. Et je pense que c'est ça que Bell Hooks veut déjouer. Et elle montre du coup à quel point dans ce truc égotique et cet instinct de pouvoir que tous les humains ont, quel que soit leur genre, les femmes ne sont pas des anges plus que les hommes, bah, dans ces rapports-là, il y a une ambiguïté et peut-être une complicité des femmes involontaires et inconscientes dans un système qui finalement leur nuit. C'est quelque chose que soulignait déjà Simone de Beauvoir quand elle analyse l'aliénation des femmes dans le deuxième sexe. Alors ça ne fait pas forcément plaisir de lire ça, mais je crois que c'est important de comprendre les ressorts. Elle montre que les femmes ne sont pas juste des victimes de leur aliénation, mais qu'elles sont aussi des complices de leur aliénation, puisqu'il y a quelque chose de confortable, de rassurant, de soulageant, de se défaire de sa liberté, se défaire de sa responsabilité de sujet qui doit prendre en main son existence. Et donc, voilà, tout ça se fait un sac de nœuds qui fait qu'on ne peut pas dire il y a des justes, il y a des dominants et des dominés, il y a des méchants et des gentils. C'est beaucoup plus complexe et ambivalent que ça.
Merci Jeanne pour ces réponses profondes. Nous n'aurons pas l'occasion cette fois-ci d'aborder le bien-être que peut apporter le fait de s'occuper de son chez-soi sans rentrer dans les extrémismes du hashtag Tradwife, ce mouvement prônant le retour de la femme mariée comme femme au foyer. Ce mouvement est à l'opposé de mon féminisme. Je n'encourage pas les femmes à dédier leur vie exclusivement à leur famille et à leurs enfants, mais au contraire, à trouver un équilibre entre ce qu'il y a à faire chez soi et en soi pour être heureuse, tout simplement. Merci Jeanne Burgard-Goutal, vous nous avez montré des stéréotypes qui peuvent être déconstruits pour que les femmes puissent s'épanouir dans tous leurs rôles et leurs engagements. En retrouvant du temps et de la confiance, les femmes peuvent enrichir leur vie et celle de leur communauté. Pour moi, il est clair que de petits gestes peuvent amener à de grandes transformations et, comme je le répète souvent ici avec humour et conviction, tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine.